Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches, tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour et bienvenue sur Langue de Prune, l'émission qui vous parle des langues sous toutes les coutures, de leurs histoires, leurs évolutions, en passant par leurs influences. Je présente, je suis Louis et je serai votre animateur ce mois-ci. Vous ne m'avez pas entendu les dernières fois parce que j'étais à la régie, mais j'étais aussi écrivain quelquefois. Je suis accompagné, comme chaque fois, d'Axel.
Bonjour.
D'Azilise.
Bonjour.
Et de Guillaume.
Salut.
Cette fois-ci, nous allons vous parler des influences du français sur d'autres langues et inversement. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais notre propre langue n'est pas composée de mots uniquement français. Nous utilisons parfois des mots que l'on qualifie d'anglicisme, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et le français n'est évidemment pas un cas unique. Une question s'impose alors d'elle-même. Le français, influenceur ou influencé ? Notre langue rayonne-t-elle sur le monde dans sa formidable sphère francophone ? Ou disparaît-elle sous les assauts incessants d'autres langages ? C'est ce que nous allons nous aventurer à observer durant la prochaine heure. Notre propos s'étayera cette fois-ci en quatre parties pour tenter de couvrir un maximum de terrain linguistique. Tout d'abord, une histoire de la conquête normande de l'Angleterre et son impact linguistique, suivie d'un historique de la création du Québec et de sa langue, puis nous verrons les influences de la langue arabe sur le français, pour enfin terminer avec une vue d'ensemble un peu plus large des influences du français sur les autres langues. Ces sujets seront accompagnés de nos trois chroniques habituelles. La première, étymologie en folie, s'attardera sur plusieurs mots communs du français, mais qui voient leurs origines en dehors de nos frontières. La deuxième chronique, à qui la faute, s'intéressera à ces fameux anglicismes que nous utilisons, mais qui n'en sont parfois pas vraiment. Et enfin la dernière, d'ici et d'ailleurs, s'aventurera sur le mystère de l'aubette. Commençons donc directement avec l'étymologie en folie, présentée par Axel.
L'étymologie en folie.
Aujourd'hui, dans l'étymologie en folie, je vais commencer par vous poser à tous, à toutes, une devinette. Est-ce que vous pouvez trouver le point commun qu'il y a entre les mots aubergine, épinard, tasse, sucre, hasard, maboule, amalgame ?
Ils commencent pas pareil, ça marche pas ça.
Ils ont tous des voyelles.
Effectivement, j'aurais du mal à trouver des mots avec aucune voyelle.
J'aurais dit que c'est juste des mots qui peuvent donner faim, certains.
J'ai fait exprès de mettre au début des trucs liés à la nourriture pour piéger. Mais en fait, leur point commun, c'est, surprise, leur étymologie.
C'est pas vrai.
En fait, ce sont tous des mots qui ont pas mal voyagé et qui sont tous passés par l'arabe avant d'arriver au français. Je n'ai pas cité d'ailleurs exprès des mots qui, je pense, vous auraient mis la puce à l'oreille. Par exemple, le souk, le bazar, le zéro, chiffre aussi, c'est connu que ça, c'est des mots qui viennent de l'arabe et qui sont vraiment, oui, connus pour ça. Le premier mot que j'ai cité, c'est l'aubergine. Et ça, c'est un mot qui a vraiment beaucoup voyagé. Je précise que je vais citer des mots qui viennent de langues que je ne parle pas du tout, donc mon accent va être abominable. Mais l'aubergine, en fait, ça, c'est parti déjà du sanskrit. Donc c'est une langue indienne, et à l'origine c'était Vatigagama. Après c'est passé par le persan, Batingan, puis l'arabe avec Padinjan, puis l'arabe andalou, donc l'arabe qui était parlé sur le territoire espagnol aujourd'hui, Batingana, enfin le catalan du coup, Alberginia, avant d'arriver dans le français. Un sacré voyage donc pour ce légume. Le sucre, en fait, a fait un voyage similaire, donc encore du sanskrit sarkara, au persan sekar, puis l'arabe « soukar », l'italien « zucchero » et après, du coup, le français « sucre ». Et les épinards, eux, ça remonte à l'arabe persan « isfinage ». Là, le lien est un peu plus clair, un peu plus direct. Pour finir avec la nourriture, « tasse », là, c'est un emprunt qui est vraiment beaucoup plus direct à l'arabe « tasse », qui signifiait une coupe, une écuelle. Pas besoin de vous faire un dessin. Un mot qui est vraiment intéressant et que j'ai cité du coup dans ma petite liste, c'est hasard. Ça vient en fait de l'arabe andalou, encore une fois, hasard, qui signifie le dé, le jeu de dés. Et d'ailleurs, petit point intéressant, le zar présent dans ce mot-là, ça signifiait fleur. Et en fait, c'était utilisé parce que sur les dés, la face gagnante était décorée d'une fleur. Maboul, c'est aussi un emprunt direct en fait à l'arabe, maboul. Maboul, je ne sais pas comment c'était. Et le sens, moi, c'était fou, stupide. Ce n'est pas vraiment le plus surprenant non plus. Et le dernier mot que j'ai cité, c'est amalgame. J'espère que l'ironie ne vous échappera pas. Et ça nous vient donc du latin amagalma, qui a pour racine l'arabe al-mulgam, qui désignait un onguent, un mélange de mercure et de métal. Comme on dit de nos jours, à méditer.
Langue de prune.
Eh bien, comme quoi, notre langue est pleine de surprises. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais jamais cru qu'amalgame, ça venait de l'arabe. Enfin, maintenant, moi, je vais vous présenter l'histoire de la conquête anglo-normande et ses conséquences linguistiques chez nos chers voisins d'outre-Manche. Donc, ce qui est bien avec notre langue française, c'est qu'il existe quelques exemples historiques faciles à identifier qui marquèrent durablement une autre langue. Là, du coup, on va particulièrement s'intéresser à l'exemple anglais avec la conquête normande. Vous le savez sûrement, l'Angleterre a été conquise en 1066 par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Puisque cette thématique est dédiée à l'histoire, on va s'attarder un peu sur l'histoire de cette conquête avant de décrire les changements linguistiques importants qu'elle causa par la suite. D'abord, une grande question. Pourquoi Guillaume le Bâtard, puisque tel était son nom avant d'être conquérant, puisqu'il a envahi l'Angleterre? En gros, le royaume d'Angleterre était sujet entre le Xe et le XIe siècle à de nombreuses invasions vikings qui faussèrent Édouard, le père de William, à fuir le royaume. Une chose à savoir sur Édouard. Il est né du mariage entre le roi d'Angleterre d'alors, au nom très prononçable de Ethelred, et de la fille du duc de Normandie. Il était donc lui-même prétendant au trône. Du coup, lorsque le dernier roi viking d'Angleterre mourut sans héritier, il fut appelé par les nobles du royaume pour prendre sa place sur le trône. C'est donc tout naturellement que son fils, Guillaume, bien qu'illégitime car né en dehors du mariage, aurait dû accéder au trône. En effet, malgré son illégitimité, William hérita du duché de Normandie. Et en raison des bonnes relations qu'il avait avec son père, ce dernier lui avait également promis son trône. Seulement, le jour fatidique, le beau-frère d'Edward, un noble anglais très populaire du nom d'Harold, se permit d'accéder lui-même au trône. Et pour rendre la situation encore plus détendue, un troisième homme, le roi de Norvège, aussi nommé Harold, super, c'est pratique, choisit cet exact moment pour mener la dernière grande conquête de sa vie, sa cible étant incidemment l'Angleterre. On a donc le décor principal. Trois prétendants au trône, ultra puissants et tous prêts à se battre pour. Du coup, quand Guillaume et l'actuel roi anglais durent attendre 2 mois sans pouvoir se battre, ça a dû être vachement anticlimatique. Parce que oui, pas de peau. Quand Guillaume a levé son armée de 14 000 hommes et 700 navires, il faisait pas beau. Et le vent, il n'allait pas dans le bon sens. Et le temps, il est resté comme ça pendant 2 mois entiers. C'était tellement long que le roi anglais, il a fini par dissoudre son armée et laisser ses hommes rentrer chez eux. Et ça n'a pas loupé. C'est puis le moment où il a dissous son armée que le roi norvégien est arrivé au sud de l'Angleterre pour mener son invasion. Alors ça, il a dû être ravi, le roi Harold. L'anglais, hein, pas le norvégien. Vous suivez, j'espère. Quand il a dû relever son armée, qu'il venait tout juste de dissoudre, et la faire marcher en 4 jours seulement pour se battre avec les Norvégiens. Juste comme ça, 4 jours pour aller de Londres jusqu'au sud de l'Angleterre, c'est incroyablement rapide pour une armée. Malgré la fatigue, l'armée anglaise réussit quand même à sortir victorieuse, laissant le roi norvégien tomber pendant la bataille. Et juste alors que les Anglais viennent de gagner, qu'est-ce qui se passe en Normandie? Il se met enfin à faire beau. Et le vent, il va du bon sens. Alors que l'armée anglaise est littéralement épuisée de la bataille contre les Norvégiens, il doit refaire l'exploit de foncer à pas de course vers la Manche pour affronter Guillaume. L'enfer. On va passer un peu les détails de la bataille. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous savons déjà. Les Normands gagnent, et on peut enfin appeler le nouveau roi Guillaume le Conquérant. Quand même plus sympa que Guillaume le Bâtard. Nous avons donc un roi normand sur le trône d'Angleterre, avec des sujets anglais, anglo-saxons pour être précis, qui vient avec sa cour normande, des populations normandes s'installer en Angleterre avec lui. S'ensuit donc une transition culturelle menée à marche forcée, qui a donc évidemment, entre autres choses, un impact sur la langue. Mais vous allez me dire, mais enfin, monsieur le marchand, ce sont des Normands. Et vous nous avez appris à l'émission précédente que les langues régionales étaient des langues entières, à part du français. Ça n'a aucun sens ce que vous dites là. Ce n'est pas l'influence du français dont vous nous parlez. Et à ça, je vais vous répondre que vous avez parfaitement raison, et tort à la fois. Il faut savoir un truc sur les Normands. À la base, ce sont des Vikings qui, comme n'importe quel autre Viking, faisaient des raids, et parfois jusqu'en France. Sauf que justement en France, pour qu'ils arrêtent ces raids, on leur a proposé de s'installer en Normandie. Et en échange, défendre ce territoire contre les autres Vikings. C'est donc comme ça que ces peuples sont devenus Normands, et se sont tellement intégrés à la population locale qu'ils ont fini par faire évoluer leur langue vers ce qu'on pourrait appeler un genre de normand français. Un mélange entre la langue locale et le français de l'époque. C'est donc bien de l'influence du français sur l'anglais dont on parle. Cette influence s'est faite d'une manière assez directe. Ce normand français devint perçu en Angleterre comme une manière plus raffinée de dire les choses. Là où l'anglais de l'époque, très proche du nordique, donc l'anglo-saxon, était une manière plus rustre de dire les choses, bien moins belle. Qui a mené une transition dans de nombreux termes, qui mène à une nouvelle période linguistique que l'on appelle le moyen anglais, Middle English. D'abord, tout ce qui revenait de l'armée ou de l'administration. Les mots comme government, judge, castle sont d'origine normande. Ces changements de vocabulaire venant d'une classe d'élite est dû au fait que tous les nobles anglais furent remplacés par des nobles normands après la conquête, sans exception. Pour des mots qui sont plus utilisés dans la langue courante, on voit friendly, qui est remplacé par amiable, qui vient donc de amiable, on peut le voir assez facilement. Il y a aussi come in, qui devient enter, très proche de entrer. Room, qui devient chamber, on voit bien le chambre dans ce mot, etc. Cela se constate aussi au niveau des métiers. Les métiers de entre guillemets basse extraction restent d'origine anglo-saxonne. Par contre, les métiers plus qualifiés sont normandisés. Painter, tailor et merchant sont tous des mots d'origine normande. Les mots ne sont pas le seul impact d'ailleurs qu'il y a eu sur la langue anglaise. Les lettres aussi sont en partie changées. Des lettres qui étaient d'origine nordique, vous savez, ces D avec des petites barres, ces O avec des petites barres, disparaissent de la langue et sont remplacées par des O, le D plus classique, le H qu'on utilise aujourd'hui, ce genre de choses. Le dernier exemple, qui marque bien la séparation faite entre les anglo-saxons et les normands, se fait au niveau de la nourriture. Là où un paysan élève dans sa ferme des sheep et co, donc des moutons et des vaches, leur viande devient dans l'assiette du normand, mutton et beef. Cette transition linguistique a marqué l'anglais jusqu'à nos jours, car tous les mots que j'ai cités sont toujours ceux utilisés aujourd'hui en Angleterre, sans revertir pour autant le marqueur social qu'ils avaient alors. Après tout ça, je vous propose une petite pause musicale. Nous allons écouter les Raccoon Riders, un groupe espagnol qui chante en anglais. Let's go!
Wake up in a dream, don't know when I fell asleep. I feel lonely, I feel water on my feet. Humming loud and clear, makes my troubles disappear. Has me thinking I might do it out of fear. But I look above and think that I should stay. As the sunlight fades away, cause I don't want to fight this battle. Frustrated, they're not bouncing when they hit. It's crazy how these days I would kill to see your face. But my yelling turns to whispers in this place. But I look above and think that I should stay as the sunlight fades away. Cause I don't want to fight this battle anymore. And I don't want to let you know that I've been down this road. Thank you.
to say I cannot deny that I'd rather stay asleep in this lie. I'm afraid to even try, 'cause I don't want to fight this battle anymore, and I don't want to let you know that I've been down this road before. 'Cause I don't want to feel that nothing's changed at all, don't wanna face what I've become, and like this setting sun I can't come back to you.
Va maintenant vous parler de l'histoire du Québec et du Québécois.
Pendant ce temps des fêtes, je vais vous parler d'une langue française qui peut nous donner en tête l'image d'un caribou, de sirop d'érable, de neige, l'été indien, de bûcheron et de sel indien. Vous avez deviné, c'est le Québécois. Alors tire-toi une bûche et découvrons ensemble cette magnifique langue pleine de surprises. Tout commence avec l'implantation des colons français en Amérique du Nord avec la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608. Plusieurs vagues de colons vont suivre avec la fondation de la Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée Compagnie du Canada, par Richelieu, en 1627. Entre cette même année et 1663, quelques milliers de Français débarquent à Québec. Ils viennent entre autres de la Normandie, de la Bretagne, de Paris et l'Île-de-France et le Poitou, par exemple. Ils vont tous parler un français identique à celui de Paris, même s'ils viennent de différentes régions. La diversité des langues régionales s'est très rapidement uniformisée, notamment parce que 71,5% des colons ont une origine urbaine ou semi-urbaine. Et le patois va quand même réussir à diffuser plusieurs de ces mots, car le 28,5% restant des colons est d'origine rurale. À partir du 13 septembre 1759, Québec, la capitale politique de la Nouvelle-France, donc du Canada, est prise par l'armée britannique. L'armée française quitte le territoire, tout comme l'élite dirigeante, composée des membres de l'aristocratie, des hauts commerçants, et ne reste alors que le peuple, le clergé catholique, la petite bourgeoisie et les gens de l'administration civile. La langue française est reléguée au deuxième rang dans la pratique du commerce et dans les communications d'État. Par nécessité, la classe éduquée se met à apprendre l'anglais et devient graduellement bilingue. S'ensuit la Révolution américaine, qui va stopper les Anglais quelques années plus tard dans la conquête du Canada. Bref, quelques centaines d'années plus tard, et nous arrivons à la Révolution tranquille dans les années 1960. Jusque-là, les commerces et les employeurs étaient principalement de langue anglaise, ce qui fait que lorsqu'un Canadien français, qui vivait essentiellement à l'origine en milieu agricole, ont quitté les campagnes pour les villes lors de l'industrialisation, ils ont appris leur métier avec les mots anglais, sans être même bilingues, ce qui a contribué à la diffusion d'anglicismes et souvent des mots anglais déformés. Les contrats de travail et les conventions collectives étaient aussi rédigés en anglais, et lorsqu'ils étaient traduits, c'était par des traducteurs improvisés qui calquaient les formes de l'anglais. Un grand nombre d'anglicismes disparaît dans les années 70 grâce aux efforts de l'Office québécois de la langue française et de la volonté collective, que ce soit dans le domaine technique ou dans le vocabulaire administratif. Les anglicismes québécois ne sont pas les mêmes que ceux en France et ils sont aussi d'un autre ordre. Il y a divers types d'anglicismes qui peuvent être distingués. Il y a l'anglicisme intégraux, donc qui est le résultat d'un emprunt direct de l'anglais, par exemple « wiper » pour « essuie-glace », et énormément du vocabulaire aussi pour la voiture vient de l'anglais. On a les anglicismes hybrides, qui consistent à ajouter un mot anglais, au mot anglais un élément morphologique français, donc c'est-à-dire par exemple « checker » pour « vérifier » ou « focuser » pour « concentrer » ou bien alors « spotter » pour « repérer ». On a aussi l'anglicisme sémantique, donc ce sont des mots français qui prennent le sens d'un mot anglais qui leur ressemble et qui a un sens différent. Donc par exemple, ça prend au lieu de il faut, qui va reprendre de l'anglais it takes. On a aussi l'anglicisme syntaxique, qui est un agencement de mots français reproduisant une structure anglaise. Donc par exemple, tomber en amour au lieu de tomber en amoureux, pour l'anglais to fall in love with. Plusieurs mots et expressions qui étaient d'usage aussi courants au XVIIe et XVIIIe siècle en France et qui sont aujourd'hui désuètes sont toujours utilisés dans la langue orale au Québec. On a par exemple « à cause que » pour « parce que ». On a aussi « parer une porte », même si c'est aussi employé dans le patois, dans la Normandie et dans le nord de la France. On a aussi « présentement » pour « en ce moment ». On a « souliers » pour « chaussures ». Ou alors, ils disent aussi « déjeuner, dîner, souper ». Et nous, on va plutôt dire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Un vocabulaire marin aussi alimente la langue québécoise, étant donné que les ancêtres des Québécois étaient souvent des marins. Beaucoup de leurs expressions se sont transposées à la vie de tous les jours. On a embarqué ou débarqué de la voiture ou du char, qui donc montait ou descend de la voiture. Et en France, on va plutôt utiliser embarquer et débarquer lorsqu'on va aller sur un bateau ou dans un avion. On a aussi une autre expression comme manquer le bateau pour rater une occasion. Et aussi, on va un peu parler des sacres. Je suis sûr que tout le monde en connaît quelques-uns. Et leurs jurons, en fait, sont tirés du vocabulaire ecclésiastique, mais ça se remarque vite. On attribue généralement cette particularité au fait que le peuple québécois a très longtemps été sous l'emprise très serrée de l'Église catholique, depuis la colonie du XVIIe siècle, mais en particulier dans la première moitié du XXe jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 60. Les sacres les plus courants sont Chris, venant de Christ, pour Jésus-Christ, Calice, venant du calice, hostie, venant de l'hostie qu'on mange, sacrement, venant de sacrement, et tabernacle, venant de tabernacle. Ils peuvent aussi être utilisés de différentes manières, par exemple exclamatif, ah, tabernacle, t'as un carici, toi ! Ou alors verbaliser, colisser quelqu'un dehors, ou adverbaliser, je me suis fait crissement mal. Ou alors aussi substantiver, le petit crissement car mardi. Ils peuvent aussi être agglutinés pour plus d'intensité, mais bon, ça, on devine qu'un petit criss tabernacle. Voilà, évitez de dire ça quand même, ça reste des grosses insultes au Québec. Ou alors, si vous le dites, dites-les bien. Voilà, j'espère que cette petite présentation de la langue québécoise vous a intéressé et que cela vous donnera aussi envie d'en découvrir un peu plus et de mieux connaître ces petits secrets de nos cousins québécois. J'ai le droit de dire, j'ai de la famille là-bas, si vous n'en avez pas, ne dites pas les cousins québécois, ils n'aiment pas ça.
Langue de prune.
Je sais pas vous, mais moi je suis vraiment subjugué par les accents auxquels on a le droit aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est au tour d'Azilis de vous présenter les différentes influences linguistiques de l'arabe sur notre langue française.
Bien sûr, il y a une grande culture, ça s'appelle la culture arabe, mais ici c'est la France. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on apprenne la culture française.
Très étonnant de partir dans un débat sur le séparatisme, soi-disant pour lutter contre le séparatisme, en commençant par justement une mesure qui sépare. Enfin, ce qui unit, c'est la langue nationale, si vous voulez.
Rendre obligatoire dès le primaire.
Si non, c'est rendre personne n'a dit rendre primaire, obligatoire.
C'est non.
Venez dans les quartiers, vous verrez de quoi vous de ce qui se passe, mais vous plaisantez. Aujourd'hui, les jeunes de la 3e, 4e génération, ils parlent souvent une espèce de charabia qui est la meilleure barrière à leur intégration. Aller dans ce sens-là, c'est continuer dans ce sens-là. Ce dont ils ont besoin, c'est des cours de français, madame.
Ah, l'arabe à l'école. Il y a plein de pays où ça pose pas de problème, mais en France, pas possible. Le sujet revient très souvent sur le tapis, dès qu'il y a une proposition de loi pour développer un tant soit peu son enseignement. Macron a déclaré vouloir développer son apprentissage dans le cadre scolaire, pour éviter qu'il se fasse dans des associations séparatistes. Parce que séparatiste, c'est le mot préféré du gouvernement en 2021. Outre que son argumentaire est un peu simpliste, il oublie plein de bonnes raisons pour apprendre l'arabe. Déjà, c'est une langue qui est parlée par plus de 300 millions de personnes, partout dans le monde. C'est une langue très différente du français, donc super intéressante à apprendre. Mais donc voilà, il en a reparlé, ça a relancé les polémiques là-dessus, les discours alarmistes. Et ces polémiques régulières diffusent de fausses rumeurs sur l'enseignement de l'arabe en France. Il est souvent présenté comme une nouveauté, alors que pas du tout. Le CAPES d'arabe, c'est le diplôme pour être prof d'arabe en collège-lycée, existe depuis 75. Les ELCO depuis 77. Les ELCO, c'est les enseignements des langues et cultures d'origine. Donc c'est des cours en fait, qui ont lieu après la classe, avec des profs qui viennent de pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ou bien la Croatie, l'Espagne. Et le but, c'est que les enfants puissent apprendre la langue de leur famille. C'est d'aider les parents à transmettre leur héritage linguistique. Aujourd'hui, les ELCO s'appellent plus pareil. Ils s'appellent les EILE. Mais bon, je ne vais pas expliquer tous les sigles parce qu'on ne s'en sort plus. Il y a une autre fausse rumeur sur l'enseignement de l'arabe, c'est que ce serait obligatoire. Or, que ce soit les EILE, qui sont du coup facultatifs, que les enfants choisissent et leurs parents de faire, ou que ce soit l'apprentissage au collège-lycée, où il y a toujours le choix avec une autre langue, c'est absolument pas obligatoire. Ces fausses rumeurs, elles sont diffusées par des politiques, dont on a entendu certains tout à l'heure, des politiques de droite, vous l'aurez deviné, qui cherche à instiller la peur que, petit à petit, l'arabe va venir remplacer le français. Et ces politiques qui donnent comme preuve de l'invasion de l'arabe dans la langue française le langage des jeunes. Alors, je ne trouve pas d'autre expression, mais je me sens très vieille de dire le langage des jeunes. Mais c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de termes d'origine arabe, enfin, beaucoup, on en trouve. C'est le cas par exemple du verbe kiffer, qui vient de kif, un mot arabe du dialecte maghrébin, qui veut dire l'amusement. Mais une forme d'amusement un peu particulière, puisque c'est l'amusement lié au cannabis. Il y a bien sûr wesh, qui à la base est un adverbe interrogatif, comme dans weshrak, comment tu vas, et qui est maintenant plus une interjection un peu multifonction. On entend aussi beaucoup chez, notamment sur les cours de récré, et c'est logique parce que c'est de l'arabe pour dire bien fait. Mais la preuve ultime que l'arabe n'est pas en train de remplacer le français, c'est qu'on entend toujours les enfants dire nanana ou gna gna gna. Ouf. Mais il n'y a pas qu'à l'arabe en fait que le langage des jeunes emprunte. Il y a aussi le verbe chourav qui vient du romani pour voler. Il y a aussi s'enjailler qui veut dire voilà, s'amuser, qui vient de l'argot ivoirien. Et il y a un petit débat sur d'où est-ce que ça vient. Il y en a qui pensent que ça viendrait de l'anglais enjoy et d'autres du français jaillir. Donc voilà, l'arabe, il a une influence sur comment parlent les jeunes, mais c'est surtout lexical. Il y a des mots qui sont empruntés à l'arabe, mais il n'y a pas de modification radicale de la langue. Mais cette place de l'arabe dans le langage des jeunes, ça laisse souvent penser que l'influence de l'arabe sur le français, c'est quelque chose de plutôt récent, alors que pas du tout. C'est d'ailleurs l'arabe, c'est d'ailleurs la troisième langue à laquelle le français a emprunté le plus de mots, derrière l'anglais et l'italien. Il y a plus de mots en français qui viennent de l'arabe que du gaulois. Et c'est pour ça que Jean Pruvot a intitulé son livre « Nos ancêtres, les Arabes ». Et on va d'ailleurs l'écouter dans l'émission « La Grande Librairie », nous donner un petit peu un ordre de grandeur des emprunts à l'arabe.
Si on prend d'un grand dictionnaire comme le Grand Robert, le Grand Larousse, le Grand Dictionnaire Universel du 19e siècle, si on prend les mots qui sont présentés comme issus de l'arabe, on arrive à plus de 500 mots. Plus de 500 mots. Mais parfois, c'est très trompeur, parce qu'on va compter jupe, par exemple, comme un mot arabe. On a raison. Mais jupon, juponnier, juponard, mini-jupe, on a rapidement développé la chose, beaucoup plus qu'on ne le croit.
Tout a commencé avec l'extension de l'empire arabo-musulman en Occident, au 8e siècle. L'arabe a alors beaucoup influencé les langues parlées dans l'Al-Andalus. C'était une grande partie de la péninsule ibérique et un peu du sud de la France, qui était sous domination musulmane. Et puis, au Moyen-Âge, le monde arabe il avait un grand rayonnement culturel. Et donc, il a transmis à l'Occident beaucoup de découvertes scientifiques. Adélard de Basse a traduit en latin beaucoup d'ouvrages, et notamment ceux d'Al-Khwarizmi, un scientifique perse, dont le nom latinisé a donné algorithme. C'est lui qui, entre autres, a diffusé les chiffres arabes, et c'est le titre d'un de ses livres qui a donné le mot algèbre. Mais l'arabe nous a aussi transmis plein d'autres choses que des mots scientifiques. Des noms d'animaux, girafe, cafard, de plantes, jasmin, safran, ou bien de fruits, abricots, pruneaux. Parce que voilà, c'est des choses qui nous ont été ramenées par le monde arabe. Enfin, des aliments. Pendant les croisades, sont arrivés des termes guerriers ou maritimes, comme amiral. Ça a aussi été l'occasion de faire du commerce et donc de diffuser des mots comme douane ou magasin. Et puis, une fois arrivée l'époque de la colonisation, il y a eu un contact avec les populations locales et on a commencé à emprunter des mots à l'argot, comme la casbah, le bled, le toubib. Donc, oui, l'arabe est partout dans la langue française, mais c'est qu'en toute petite partie due à l'immigration des dernières décennies. Et ça ne veut pas dire qu'il va le détruire pour lui piquer sa place. Je vais laisser le linguiste Claude Agege, toujours dans la Grande Librairie, expliquer pourquoi ça ne risque pas d'arriver.
Est-ce que tout cela va aboutir à une situation où le français est complètement supplanté par l'arabe, notamment, et par les langues d'emprunt? La réponse est non, pour une raison très simple. Les emprunts concernent le vocabulaire. Ils ne contiennent pas ce que j'appelle, en tant que linguiste, les parties dures, c'est-à-dire la phonétique, la syntaxe, la morphologie. On n'emprunte pas du tout les flexions, verbales ou nominales, etc. On emprunte le lexique. Et l'emprunt du lexique, l'anglais l'a fait au 11e, 12e siècle pour le français, le franco-normand, d'où les mots innombrables qui sont d'origine française en anglais moderne. Le français le fait aujourd'hui pour l'anglais, et il l'a fait pour l'arabe, comme le montre très bien Jean. Mais on n'emprunte pas les parties dures. On n'emprunte ni la syntaxe, ni la morphologie. Par conséquent, la langue n'est en aucune façon, au moins
pas menacée.
Menacée.
Est enrichie, mais pas menacée.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, et c'était très instructif. Nous allons passer maintenant à une deuxième interlude musicale, cette fois-ci locale avec Cizaï, un rappeur nantais, et son Toute la Night.
Les derniers seront les premiers frôler le succès, c'est une victoire en demi-teinte. C'est pas maintenant que je vais m'éteindre. Je te secoue comme un prunier. Je vais te montrer comment brûler. Toujours dans les temps, mélodie dans les tympans. Le savoir est une me harcèle, c'est le déclic. T'es bon qu'avec ton clavier fort, seulement quand t'harcèles, déclic. Sur le net, c'est tout. Je manque pas d'air, mais parfois j'étouffe. Je freestyle pas mal sur YouTube, j'ai une parcelle de clips. Vas-y, jette un œil, je déplore les dommages causés par le shaitan. Check ta fausse Rolex, check ta l'heure ou sur une Casio, ça reviendra au même. Meuf, s'il te plaît, sois sans filtre. Dans la vraie vie, quelle image tu vendras au mec? Espèce de menteuse, connais-tu la loi de l'omerta? Nos pères n'assument rien et s'éparpillent pendant que nos mères taffent. Reconnaissance infinie pour celle qui m'a vu naître. Fusil à lunettes, j'ai vu sur la venelle. Venez.
Ouais, j'ai gratté toute la night. Je n'ai pas dormi de la nuit. Alors j'ai gratté toute la night.
Alors j'ai gratté toute la
night. Night, night, night. Yeah, ouais, j'ai gratté toute la night. Je n'ai pas dormi de la noche.
Toi t'es fils d'ouvrier résident d'une cité HLM. Les animaux en cage ont plus de valeur sentimentale. Relâchez les pandémies, est-ce le karma? J'attaque à Mike armé. L'homme est devenu le mal incarné. Alors j'ai préféré l'écart. Je vois des gens inquiets, fous ce bâtard sous les rails de mon train de ville. Là y'a pas d'agent à quai. La vie s'agit de la quenne. Les patrouilleurs gentils, je viens d'un lit superposé avec faux maillots de l'Argentine. À l'appart l'argent manque, mais mes refs, maman et moi restons soudés. Connu le RMI, resto du cœur et puis les soudés. Zaloc, BEP, chaudronnerie, je suis dans l'acier. Fumé de soudure, t'en as chier. Des métaux, t'en as chier. J'suis de l'école, Mega Drive, Nintendo 64. Bellec à ton dos, ça sent le gaz. Ma destinée sur un deux roues avec ou sans casque. Ah, c'est chaud.
Ouais, j'ai gratté toute la night. Je n'ai pas dormi de la nuit. Alors j'ai gratté toute la night.
Alors j'ai gratté toute la
night. Night, night, night. Yeah, ouais, j'ai gratté toute la night. Je n'ai pas dormi de la noche.
On dit souvent que certains mots que nous utilisons sont des anglicismes, ils sont donc pas vraiment français. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Laissons Guillaume nous éclairer sur la question.
À qui la faute?
En français, nous utilisons beaucoup d'anglicismes, principalement dans le domaine de la mercatique, du commerce, de la finance, du monde des affaires et du cinéma et de l'animation. Mais nous utilisons aussi beaucoup de faux anglicismes dans notre vie de tous les jours. Par exemple, un baby foot est un jeu de foot miniature pour nous, en France. Mais en anglais, baby est un bébé et foot, un pied. On dirait plutôt alors en anglais table football. En parlant de foot, je peux vous dire que je vais aller faire un petit footing pour vous dire que je vais aller courir. Mais en anglais, footing parle de sa position, de ses bases, car foot veut toujours dire pied. Et donc, I lose my footing veut dire je perds pied ou je perds mon équilibre. Et quand on parle de courir, en anglais, on dirait jogging. Bon, même si en français, on utilise aussi ce terme dans le bon sens, nous l'utilisons aussi pour le survêtement, alors qu'en anglais, on dirait un tracksuit. Pareil pour un smoking. On pense à une belle tenue pour un homme. Or, cela ne veut pas du tout dire ça en anglais. Ça veut dire complètement autre chose. Smoking vient du verbe smoke, qui veut dire fumer, et qui signifie aussi l'action de fumer. Donc, cela ne correspond pas du tout à cette définition anglaise. En anglais, on dirait plutôt dinner suit, ou tuxedo, ou parfois même penguin suit, à cause de la combinaison de couleurs qui fait penser aux manchots. D'ailleurs, si vous voulez laver cette tenue, vous la mettrez au pressing. En anglais, pressing veut dire que c'est urgent, mais c'est également le fait de press, appuyer, pousser. En anglais, on dirait alors dry cleaners. Ceci ne sont que des petits exemples pour montrer la mauvaise utilisation des mots anglais. Parlons un peu de l'anglais adapté pour être compris en français, mais qui ne tient pas compte de son sens en anglais. Vous connaissez tous ce talkie-walkie en français, mais en réalité, en anglais, ça s'appelle un walkie-talkie parce qu'il permet de marcher et de parler en même temps dans un émetteur. Et les films n'y manquent pas aussi à ces traductions un peu hasardeuses. On a The Boss Baby en anglais qui est devenu Baby Boss et qui ne veut rien dire en réalité dans cette forme anglaise. D'autres exemples comme The Hangover, donc qui veut dire la gueule de bois, est devenu Very Bad Trip, ou School of Rock est devenu LAC est devenu Rock Academy, et j'en passe. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait beaucoup de titres que nous avons remplacés avec un titre anglais contenant le mot sexe, parce que c'est plus vendeur, j'imagine. Par exemple, What's Your Number est devenu Sex List, Not Another Teen Movie est devenu Sex Academy, Eurotrip est devenu Sex Trip, Wild Things est devenu Sex Crime, et j'en passe. Enfin bon, peut-être que l'on pourrait se retrouver tous ensemble à une soirée pour en parler autour d'une partie de table football dans notre plus beau penguin suit après l'avoir récupéré dans notre dry cleaners en rentrant de notre jogging.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Et voici donc notre dernière thématique sur les influences linguistiques du français. Axel va donc nous faire un plan large de l'influence du français dans le monde.
On vous a parlé tout au long de notre émission de l'influence des langues sur le français, un peu aussi que l'influence du français a pu avoir sur d'autres langues, mais il y a certains points sur lesquels je voulais insister. Notamment déjà un point plus historique, en fait une influence que le français a eue sur une autre langue qui est surprenante, assez surprenante, mais en fait qui était assez importante, c'est le russe. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le français, c'était une langue très utilisée par tout un pan de l'aristocratie russe à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le français, c'était alors considéré comme une langue noble, c'était utilisé par l'aristocratie européenne de manière générale, mais c'était en Russie que c'était le plus présent, le plus populaire. C'était pas rare que des membres de la noblesse russe parlent mieux français en fait, que leur russe natal. L'art et la culture française étaient très appréciés, c'était principalement pour ça, et on faisait beaucoup venir des précepteurs français pour la jeunesse noble. C'était bien vu pour les jeunes hommes bien nés, issus des classes sociales les plus aisées, de faire un voyage une fois qu'ils étaient adultes, une sorte un peu de tour d'Europe, et ça devait forcément passer par la France. Denis Ivanovitch von Visin, c'était un dramaturge russe qui était connu pour ses comédies satiriques, disait même « Avoir vu Paris pour un russe, c'est la même chose que pour un musulman d'avoir vu la Mecque ». Ça vous donne un peu l'échelle de l'appréciation qu'ils avaient pour la langue, la culture française. D'ailleurs, un des romans les plus connus, les plus célèbres de la littérature russe, et un des plus romans les plus célèbres du monde même, « Guerre et paix » de Tolstoï, commence par une conversation en français. C'est un dialogue entre deux aristocrates qui sont proches du tsar. Et du coup, oui, ils échangent ensemble en français dans le texte en russe. C'est quelque chose forcément que nous, on ne se rend pas compte, parce que je pense que la plupart, on lit le texte, on lit une traduction française du texte, et du coup, on ne se rend pas compte que c'est des parties qui sont en français dans le texte original. Cette influence, en fait, ce qui est assez surprenant, c'est qu'elle se maintient malgré, par exemple, la guerre avec Napoléon qui essaie d'envahir la Russie, et même si, en fait, ça place un peu les aristocrates dans une situation un peu délicate, surtout tous ceux qui servaient dans l'armée, qui avaient d'ailleurs des rôles de commandement dans l'armée, parce qu'ils parlaient en fait mieux la langue de l'envahisseur que leur propre langue et que la langue des personnes qui commandaient. Ça a vraiment pu placer certains dans des situations un peu délicates. Et même après, d'ailleurs, la révolution russe, la fin de toute cette aristocratie, la culture française est restée présente. Ça n'a pas disparu d'un coup une fois qu'ils ont dégagé toutes les tsars. Par exemple, Balzac, Zola, Dumas, Jules Verne, ils sont restés des auteurs qui étaient très lus pendant les années soviétiques. Cette place du français sur une longue période, forcément, ça s'est traduit par des échanges de vocabulaire. Et beaucoup de mots français sont entrés dans le vocabulaire russe. Mais du coup, ça s'est passé à sens unique presque, parce que c'était des Russes qui parlaient français, mais il n'y avait pas tellement d'échanges avec la France, vraiment. Encore une fois, je ne parle pas russe, donc mon accent est sûrement très mauvais. Mais en fait, c'est beaucoup de mots transparents qu'on reconnaît tout de suite, très facilement. Par exemple, pour commencer par les mots les plus aimables et les plus sympathiques, il y a « idiot »,« débile ». Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais aussi beaucoup de noms de lieux comme « restaurant », »,« parc », »,« banque », »,« boulevard », »,« théâtre ». Et pour les magasins un peu chic, on utilisait aussi « boutique ». Il y a beaucoup aussi de mots qui sont liés à l'art, la décoration, l'intérieur. Là, du coup, le lien avec l'aristocratie passionnée d'art français, c'est plus évident. Mais par exemple, dans les musées, pour parler des tableaux, on parle de paysages, portraits, nature morte. Encore une fois, on reconnaît tout de suite le mot français. Pour la décoration, l'intérieur, pour pas mal de meubles, en fait, les mots ressemblent au français. Pour en citer quelques-uns, tabourette, abat-jour, étage. Il y a certains mots que je ne vous ai pas mentionnés. Déjà parce que, comme je vous disais, la liste est très longue, que c'est des mots transparents, donc c'est pas très intéressant de les citer. Mais aussi parce qu'il y en a pas mal, en fait, qui sont des mots français qui sont importés un peu exportés un peu partout, et pas que chez les Russes. Et on va en entendre un premier exemple. Vous venez d'entendre Beyoncé dans sa chanson « Déjà vu ». Donc, « déjà vu » en français, c'est comme ça qu'il prononce à l'anglaise. Cette expression, en fait, elle a été employée donc, en français en premier par Émile Boirac en 1876 dans « L'avenir des sciences psychiques ». Vous connaissez sûrement déjà le terme, mais c'est une expression qui désigne une expérience particulière qui se prête du coup mal à la traduction. C'est une impression de reconnaître l'expérience qu'on est en train de vivre, que la situation dans laquelle on est s'est déjà produite. Et en fait, on pourrait faire une traduction littérale en anglais, par exemple « already thin ». Mais du coup, ça devient vraiment très littéral et ça désigne vraiment ce qu'on voit. Et on perd ce sens un peu métaphysique de l'expression. Et c'est pour ça que ça n'a pas bougé, en fait, et que ça a été gardé en déjà vu. Et d'ailleurs, Beyoncé n'est pas la seule de loin à utiliser déjà vu dans ses chansons. Il y a beaucoup d'artistes anglophones qui l'utilisent. On le trouve aussi même dans le reste du monde. Par exemple, il y a un exemple assez connu, c'est un générique d'anime japonais qui utilise ce terme-là. Voilà, si vous traînez un peu sur Internet, vous avez dû l'entendre. Et on reconnaît tout de suite le déjà vu. C'est aussi utilisé, par exemple, pas mal en Corée. Et là encore, c'est lié à cette influence, à l'influence en fait, de l'anglais, du fait que les Anglais l'utilisent. Mais on a par exemple ce couplet dans une chanson coréenne. Alors, vous avez peut-être entendu le déjà vu dedans, mais aussi, transition parfaite, il y a un autre mot français dans ce couplet-là. Est-ce que quelqu'un l'a reconnu ici en studio ?
Personnellement, même déjà vu, j'ai eu du mal à entendre. J'étais à la fin, mais je n'arrive pas à
faire ça. C'est ça, et t'as une bonne piste.
C'est un truc en ou ?
C'est ça, c'est la fin de la deuxième.
Hibou.
Bisous.
Du coup, c'était rendez-vous.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'il le prononce du coup rendez-vous. Donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à reconnaître que déjà vu, qui est déjà pas mal changé. Et donc là aussi, c'est un terme rendez-vous qui est très utilisé à l'international. C'est notre image de grand romantique qui nous colle encore une fois à la peau. Le terme, il est utilisé à l'étranger pour désigner vraiment qu'une rencontre romantique. Par exemple, en anglais, ils ont meeting où ça va être professionnel. Ils ne vont jamais utiliser rendez-vous pour parler de quelque chose de pro ou juste. Voilà. C'est vraiment le romantique. Par exemple, on l'entend beaucoup dans les films, dans les séries. Il y a certains films qui ont pu s'appeler comme ça, des films un peu de romance et tout. Voilà. Et un autre mot un peu particulier qui est utilisé en anglais, c'est connoisseur. C'est le mot connaisseur, épelé avec un O et un I à la place du A et du I. Et en fait, c'est un mot qui est utilisé pour parler d'une personne qui apprécie, connaît, par exemple, la grande cuisine, le vin, les arts classiques. Aujourd'hui, maintenant, quand c'est utilisé, si par exemple, je dis de Guillaume que c'est un connoisseur de, je sais pas, du vin, en fait, il y a un peu un sous-entendu un peu prétentieux, un peu hautain. Donc généralement, c'est utilisé de nos jours de manière ironique, un peu pour se moquer de la personne. Par exemple, qui étale un peu son savoir, et tu dis « Ah, you're a connoisseur !» Voilà. Donc, en fait, cette influence-là, on remarque avec ces termes-là, c'est une influence qui est liée historiquement à l'image de la France comme un pays romantique, fait d'art, de bon vin. C'était le cas en Russie, et ces quelques termes qui sont qu'ont voyagé vers l'anglais conservent cette image-là.
Une dernière musique pour la route. Denis de Blondie, une chanson en anglais pour déclarer son amour à son amant français. Denis.
I got a crush on you, Denis.
Avant de conclure, explorons avec Azilise le mystère de l'aubette.
D'ici et d'ailleurs.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui me tient à cœur, du plus grand mystère de ma vie, l'aubette. J'en entends déjà dire « Hein ? C'est quoi ?» Et c'est bien là que réside le mystère. Pour certains, c'est un mot totalement énigmatique. Et pour d'autres, c'est évident que, une aubette, c'est un abribus. D'ailleurs, l'Académie française recommande d'utiliser plutôt le terme « aubette ». Parce qu'abribus, c'est une marque déposée par J.C. Decaux, ceux qui font les affiches là. Eh oui, ça fait mal de savoir que j'utilise un mot préconisé par l'Académie française. Parce que je dis aubette, je l'ai toujours dit. Quand j'étais enfant, tout allait pour le mieux. J'habitais une ville du nord-ouest du département. Et là-bas, quand je disais aubette, on me comprenait. Et quand on me disait aubette, je comprenais. C'était l'époque de l'insouciance. Et puis, je suis arrivée à la grande ville, Saint-Nazaire. Et c'est là que le drame s'est produit. Eh ? On va à l'aubette ? Ouais, j'avais cette voix-là. Allô quoi ? On ne me comprenait plus. J'ai interrogé la moitié du lycée. Certains connaissaient le mot aubette, d'autres non. Et j'arrivais pas à trouver le dénominateur commun au sein de ces deux catégories. Je me suis dit, peut-être que le mot est surtout utilisé dans le Nord-Loire, et pas dans le Sud-Loire. Mais il y avait trop de contre-exemples. Et puis, je suis arrivée à Nantes. Et là, j'avais l'impression que moins de gens connaissaient les aubettes. Mais c'était peut-être simplement mon désespoir qui grandissait. Une amie m'a fait part d'une théorie très intéressante. On parle peut-être plus d'aubettes à la campagne. Peut-être qu'une aubette, c'est cet abribus en bois un peu déglingué qu'on trouve au bord des routes de campagne. Et puis enfin, pour préparer cette chronique, je me suis dit peut-être que je devrais faire des recherches un peu plus sérieuses. Alors j'ai été sur Internet. Et j'ai lu que le mot aubette est surtout connu dans la région nantaise. Ça y est, enfin je savais, enfin j'avais une réponse. J'ai été au bar pour fêter ça. J'ai propagé la bonne nouvelle à qui voulait bien l'entendre. Jusqu'à ce qu'un type me dise « Ah non, c'est pas possible parce que moi je le connais ce mot. Et tu viens d'où ?» Des Côtes d'Armor. Tout s'est effondré autour de moi. Ce ne serait donc pas un mot du coin ? Alors je suis retournée à mon ordi et j'ai continué les recherches. J'ai appris que visiblement l'étymologie d'aubette n'est pas spécifiquement locale. Le mot vient du francique. Le francique, c'est une langue germanique qui a servi de substrat, de base au français, qui était parlé au Moyen-Âge. Du francique aube, cabane, auquel on a ajouté le diminutif et, petite cabane, logique. J'ai aussi appris que le mot serait utilisé dans tout l'ouest de la France. Donc, ceci explique cela. On l'emploierait aussi en Belgique et en Suisse romande, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Quoi qu'il en soit, le mystère est encore loin d'être résolu. Pourquoi utilise-t-on le même mot dans des régions aussi éloignées ? Pourquoi est-il aussi peu répandu au sein même de ces régions ? Ce mystère ne sera peut-être jamais résolu. Mais ne perdons pas espoir. Le jour où nous comprendrons ce mystère, ce jour sera merveilleux.
Langue de prune.
Excusez-moi, je suis encore remué par l'émotion palpable de l'histoire d'Azilis sur l'aubette. Mais bon, malgré les émotions, il faut pouvoir conclure. Ainsi, nous l'avons vu, de par son histoire et comme toute autre langue, le français est aussi bien influenceur qu'influencé, et non l'un ou l'autre. On peut dire qu'il s'agit principalement de l'histoire de notre langue, que ce soit à l'intérieur de nos frontières, comme langue initialement aristocratique en contact avec d'autres langues régionales, ou dans ses autres contacts, par exemple avec l'arabe durant les croisades ou les échanges commerciaux. Cela vaut aussi pour l'anglais. Nous l'avons vu aussi bien avec la conquête normande qui a façonné cette langue, mais aussi dans l'autre sens, avec la construction du québécois. D'ailleurs, profitons de cet aparté sur l'anglais pour discuter un peu de son importance de nos vies. En effet, on a tous des exemples personnels, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, que ce soit à l'école, de l'importance de l'anglais dans nos langues, dans nos vies. Vous avez sûrement des exemples, vous aussi. Guillaume avait l'air de dire tout à l'heure que ça avait l'air poignant dans ses études.
Oui, moi je fais des études d'animation 3D et avec tous les logiciels, tout est en anglais, en fait, pratiquement tout. Puis même dans les termes qu'on va se dire en classe, on utilise le mot skin pour la peau quand on va faire quelque chose qui est relié à la peau du personnage. Les joints, même si en anglais c'est dit joint, on va le prononcer en français. Tout ce qui est outil aussi pour couper, c'est cut, smooth, pour que ça soit tout doux, en fait. Tout est en anglais automatiquement, même les cours qu'on fait, qui est cours de lumière, on a appelé ça lighting, de composition, on dit ça compositing, animation, ça reste animation, mais en anglais c'est animation, tout est en anglais, et en fait même nous quand on doit faire écrire les paramètres et tout ça, on doit être sûr d'écrire en anglais aussi, parce qu'on va après communiquer avec des gens qui sont principalement anglais, et il faut savoir comprendre qu'est-ce qu'on va écrire.
Oui, vas-y Lise.
Je ne levais pas la main, mais je veux bien parler. oui, moi, ça me fait pas penser à la France. Je me dis, oui, nous, en français, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de mots qu'on emprunte direct à l'anglais sans les changer, comme ceux que tu as dit. Et ça me fait penser, et je vais encore parler de ma sœur qui habite en Espagne, qu'en espagnol, eux, ils prennent les mots, mais ils les transforment pour les adapter à la langue. Ils transforment surtout l'orthographe. Football, ils l'écrivent, alors je crois que ça doit être un truc du genre... F-U-T-B-O-L, enfin oui. Pour que ça se lise à l'espagnol.
Football, tout le genre.
Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans le temps, on a emprunté des mots et on s'est adapté à la langue et maintenant ça se fait directement. Je sais pas trop pourquoi.
On a un peu de franglais quand même. On utilise le franglais, même si là, chaud, j'ai pas de.
Moi, j'en ai un. Je regarde énormément de films et de séries en anglais, parce que dans l'anglais. Et l'autre jour, j'ai dit à ma meilleure amie, oui, j'ai eu un argument avec quelqu'un. Voilà, en anglais, pour moi, dans l'idée, j'ai l'habitude que dire to have an argument with someone, c'est avoir une discussion. J'étais en sens, ça se dit en français, non ? J'étais
non, ça se dit pas. Non, c'est un faux ami.
Ok, ouais. Et après, c'était pareil. Après, j'ai dit, ma cousine est engagée à quelqu'un. Ça veut dire fiancée. Et j'étais, beaucoup de choses comme ça. Trop d'anglais.
Un peu dans la suite de ce que disait Guillaume par rapport à ses études, moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps un boulot dans une boîte d'informatique. Et pareil, il y a pas mal de mots, on parle des users, des trucs comme ça. Et ce que je trouve assez drôle, en fait, c'est que même si je suis entourée de pas mal de gens qui travaillent dans l'informatique et qu'on fait des... Alors moi, ce n'est pas le cas, mais eux, mes collègues, ils ont fait des formations dans l'informatique, etc. J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui sont à l'aise en anglais, même si... qu'on fait des études un peu en anglais ou quoi que ce soit, même si c'est très utilisé. Il y a beaucoup de... Par exemple, il y a un logiciel... J'entendais des gens l'autre jour parler à midi d'un logiciel qu'ils vont commencer à utiliser, qui est tout en anglais. Et tout le monde se plaignait, parce que forcément, c'est un peu compliqué quand on connaît pas la langue. Ça fait pas mal de choses à apprendre. Et je trouve ça assez marrant comme paradoxe, en fait. Mais voilà.
Il est clair que dans le milieu de l'entreprise, en France aujourd'hui, l'anglais... prend de plus en plus d'importance. Moi, j'ai juste à prendre l'exemple du travail où je bossais avant. Ils avaient, juste avant que je parte, ils avaient inventé leur nouveau réseau social. Ils étaient super fiers. Ils s'appelaient Workplace. Alors là, c'était quelque chose.
Quelle ancienne.
Des stories.
Wow. Oh là là.
Attention Instagram.
Incroyable.
Après, c'est pas le seul exemple de l'omniprésence de l'anglais dans nos vies. Quand on voyage à l'étranger, c'est pas en France, mais on parle anglais. Peu importe où on va, il faut la plupart du temps savoir parler anglais. Il y a évidemment des exceptions, même qu'on va à l'autre bout du monde, le point commun, ça va être de parler anglais.
Et le défaut un peu de ça, c'est qu'il y a pas mal de gens du coup qui vont partir dans un pays et se dire ça va, je parle anglais, donc j'ai pas besoin d'apprendre la langue du pays où je vais. Mais tout le monde parle pas anglais partout, et même si nous en France on se voit comme des mal placés, il y a plein de pays où les gens parlent très mal anglais aussi, donc du coup tu arrives et tu veux te débrouiller en anglais, mais non, ça se passe pas comme ça.
Après, ça sera le mandarin qu'il faudra apprendre, ce sera la future langue internationale.
c'est même pas que ça. Moi, j'ai passé quelques mois en Corée, j'ai souvent cru, c'est bon, je comprends l'anglais, je peux y aller tranquille. En vrai, personne parlait anglais quasiment.
Non.
C'était bien marrant. C'est... Enfin bon, là-dessus, on va conclure, nous allons vous laisser. Et donc on va donc vous laisser sur ces notes de fin. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission le mardi 25 janvier de midi à 13h sur Prune. Vous pourrez également retrouver cette émission en format podcast sur le site de Prune. Comme toutes nos autres émissions, il faudra juste attendre quelques jours. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir.
Salut.
Salut.
Au revoir.
Et bonne fête.
Bonne fête. À l'année prochaine.
Super.
En 2022.
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le
bientôt
car.
Dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
très
dans
vite
le car.
Dans le cockpit.